Radio Prague, les informations. Radio Prague, les informations.
Barack Obama devrait rencontrer des responsables européens à Prague. Jiří Pernes a été officiellement nommé à la tête de l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires. Tomáš Berdych a battu Roger Federer à Miami. En plus de signer le traité sur la réduction du nombre d'armes nucléaires avec son homologue russe Medvedev, le président Obama pourrait rencontrer à Prague d'autres chefs d'État et de gouvernement, selon l'agence de presse Cheteka. La cérémonie de signature doit se dérouler jeudi prochain et selon le State Department américain, Barack Obama et Hillary Clinton pourraient avoir une série de rencontres bilatérales dans la capitale tchèque avec des responsables politiques européens, dont la liste est en train d'être établie. Le nouveau directeur de l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires vient d'être officiellement nommé. Jiří Pernes succède à Pavel Žáček malgré la polémique provoquée par sa nomination. Le choix de Pernes avait été critiqué, notamment parce qu'il n'avait pas indiqué sur son CV qu'il avait fréquenté les cours du soir de l'université marxiste-léniniste avant la révolution de velours. La République tchèque a adressé à Bruxelles une première demande de subvention du Fonds européen de globalisation. Elle a été soumise par la société Unilever, producteur de denrées alimentaires et de biens de consommation, en coopération avec le ministère du Travail et des Affaires sociales. Le fonds peut offrir des moyens couvrant jusqu'à 65% du coût des cours de requalification ou de formation des employés qui ont perdu leur travail en raison de la mondialisation ou de la crise. Ce jeudi 1er avril, le très connu théâtre pour enfants Spable et Hurvinec, ou si vous voulez Hurvinec, ouvre ses portes après une importante reconstruction qui a duré 2 ans et qui a coûté environ 130 millions de couronnes. Les marionnettes représentant ces deux personnages seront en outre les principaux animateurs de la présence tchèque à l'Expo 2010 à Shanghai. Cette année, le théâtre va souffler ses 80 bougies. Un musée dédié à ce théâtre a été ouvert à Prague. Tennis, le joueur tchèque Tomáš Berdych a éliminé mardi le Suisse Roger Federer, numéro 1 mondial, en 8e de finale du tournoi de Miami. Une belle performance pour Berdych, tête de série numéro 16 du tournoi qu'il a emporté en 3-7 dans un match très serré. Federer a même eu à la fin une balle de match sur son service, sauvée par le Tchèque qui s'est finalement imposé dans le jeu décisif. En quart de finale, Tomáš Berdych affrontera l'Espagnol Fernando Verdasco. Météo ce mercredi, jour de fête de tous les Quidos, le ciel en Tchéquie est nuageux à couvert avec de la pluie par endroit et les températures diurnes qui ne dépassent pas 12 degrés. C'était donc le journal présenté par Alain Gabertova.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous avec l'actualité tchèque, au sommaire de laquelle en ce milieu de semaine figurent 3 grands thèmes. Diplomatique tout d'abord, le ministère des Affaires étrangères a décidé de fermer certaines de ses représentations à l'étranger et notamment le consulat tchèque à Montréal. Les raisons de cette décision dans quelques instants. Václav Havel, l'éternel insurgé, est le titre d'un nouveau documentaire français, un film français certes, mais bien réalisé par une tchèque d'origine, Jarmila Buzková, qui était présente lors de sa projection à Prague. Elle a répondu aux questions de Radio Prague. Et puis le Telegram en République tchèque, c'est fini, ou presque. La Poste a en effet décidé de supprimer un service vieux de 160 ans, mais trop désuet à l'heure de la communication électronique. Mais en attendant de développer tous ces titres, très bonne écoute à toutes et à tous. Le consulat tchèque à Montréal, mais aussi l'ambassade en Angola et le centre tchèque à Dresde ferment donc leurs portes. Le ministère des Affaires étrangères est obligé de les sacrifier parce qu'il ne dispose que d'un budget insuffisant, ce qui le contraint à des restrictions draconiennes.
La fermeture d'une mission diplomatique tchèque dans un pays en voie de développement épargne annuellement à la diplomatie tchèque près de 10 millions de couronnes, quelque 380 000 euros. Selon le vice-ministre des Affaires étrangères, Hinek Kmoniček, ce ne sont certes pas des sommes énormes, mais le ministère ne peut pas s'en passer car son budget est le plus bas de tous les ministères et n'atteint, par exemple, que près de 15% du budget de la municipalité de Prague. Dans cette situation, le ministère ne peut se permettre de conserver que les missions diplomatiques dont l'État a vraiment besoin pour assurer ses intérêts politiques, économiques et de sécurité dans le monde. Au Canada, les associations des originaires de Tchéquie et de Slovaquie ont lancé une pétition contre la fermeture du consulat tchèque à Montréal qu'ils considèrent comme irremplaçable. D'après Hinek Kmoniček, c'était pourtant un sacrifice nécessaire.
Au Canada, je dois dire que nous avons trois missions diplomatiques à Ottawa, à Toronto et à Montréal, et nous sommes dans une situation où il faut absolument en fermer une pour des raisons financières. Si nous fermons donc une ambassade dans un autre pays, par exemple dans un pays africain, cela signifie que sera effacé de notre carte non seulement le pays concerné, mais aussi 15 autres pays voisins où notre ambassadeur a été accrédité.
Hinek Kmoniček d'insister sur la nécessité de ces mesures impopulaires et douloureuses.
Nous ne sommes pas ceux qui aiment fermer les établissements diplomatiques et qui luttent pour leur fermeture. Nous cherchons, au contraire, depuis 1993, à sauver tout ce que nous pouvons malgré notre faible budget. Nous nous rendons compte que nous avons fermé, depuis 1993, 26 missions diplomatiques tchèques dans le monde. Et ce n'est pas vraiment négligeable, c'est comme la diplomatie d'un petit État.
Tandis que plusieurs missions tchèques ferment leurs portes, ce jeudi s'ouvrira un consulat tchèque provisoire dans la province de Logar en Afghanistan. Cet établissement doit donner aux militaires tchèques en Afghanistan la possibilité de participer aux élections législatives qui auront lieu en mai prochain. La réalisation de ce projet ne viendra cependant pas amputer le budget du ministère des Affaires étrangères, car il sera complètement pris en charge par l'armée tchèque.
Václav Havel, l'éternel insurgé. Tel est le titre du documentaire réalisé par Jarmila Buzková, diffusé récemment sur Arte et projeté cette semaine à l'Institut français de Prague. Jarmila Buzková était dans la capitale tchèque pour cette projection et Katsiarina Prokofieva, notre collègue de la rédaction russe, en a profité pour lui poser quelques questions juste avant.
Si vous regardez mon film, je ne pense pas que ce soit un film hagiographique. J'ai essayé de poser mon regard sur Václav Havel et je pense que je ne me défends pas de dire parfois des choses qui sont un peu critiques.
Comme par exemple.
Comme par exemple le second mandat où je trouve que beaucoup de choses auraient dû être différentes. Simplement, je ne suis pas sûre que Václav Havel, en tant que président, avait vraiment pu faire autre chose. Je pense que c'était plutôt les fautes du gouvernement. Moi, je pense que la vraie faute de Václav Havel, c'est qu'il est trop gentil. Et que souvent, il est tellement bien élevé qu'il n'arrive pas à rentrer dans les gens. Et ça, malheureusement, je pense que des politiques, parfois, doivent être très, très dures. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quelque chose entre une autorité naturelle et un charme discret. C'est très difficile à définir, mais vous le sentez tout de suite en présence de Václav Havel. Il est plutôt doux, timide, et en même temps, il a une grande autorité, il sait définir les choses, et donc c'est un mélange de sentiments qui vous envahit, et c'est plutôt inattendu face à quelqu'un qui a fait de la politique. Parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques politiciens et j'ai plutôt eu toujours le sentiment des personnes un peu égocentriques ou un peu à la limite de l'arrogance, un but de leur pouvoir. Et c'est pas du tout le cas quand vous êtes en face de Václav Havel.
Mais vous, personnellement, vous n'avez pas cette impression que Havelomania, adoration de Havel, c'est un peu trop?
Je ne le pense pas. Je ne vois pas sur quoi se basent les gens qui disent Havelomania et quelle est la critique concrète de Václav Havel. Bien entendu, on pourrait concrètement se dire il a fait une erreur là, il a fait une erreur là, ça c'est bien entendu. Simplement, moi qui n'ai pas voulu analyser la politique de ces 13 années de présidence, j'ai voulu raconter d'où il vient, quelle a été sa vie, quelle a été comment il s'est conduit. Je trouve que humainement, il s'est toujours conduit avec un grand courage et avec une grande intégrité, ce qui n'était pas du tout le cas de la majorité des gens qui aujourd'hui probablement le critiquent. Et d'autre part, ce que j'apprécie, c'est qu'il a su rester lui-même, même après pendant et après la présidence. Et ça, je trouve que c'est très rare. Je ne saurais pas vous dire le nom d'un président, que ce soit français, allemand, tchèque, qui n'a pas, à un moment donné, changé en exerçant le pouvoir. Je pense que le pouvoir, très souvent, change les gens. Et je pense que Havel est un des rares qui est resté lui-même. Mmh. Et ça, je le trouve très, très intéressant. Et je pense que j'apprécie aussi le fait que même aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'il n'est plus président, il a beaucoup de problèmes de santé, il aurait pu se dire « maintenant je profite de mon temps libre », et ben toujours il s'intéresse au destin de son pays et même au-delà, au destin de notre monde. Je pense que c'est quelqu'un qui mérite un grand respect.
Voilà, c'était donc Yarmila Bouskova, la réalisatrice du film documentaire Václav Havel, l'éternel insurgé. Elle répondait aux questions de Katsiarina Prokofieva. À partir de ce jeudi, il ne sera plus possible d'envoyer de télégrammes en République tchèque. La Poste tchèque a en effet décidé de supprimer à compter du 1er avril ce service traditionnel qui existait depuis 160 ans. Et il ne s'agit pas là d'une farce faite pour le 1er avril, mais bien de la conséquence du constat que, à l'heure du courrier électronique et des téléphones portables, le télégramme est tombé en désuétude. Ainsi, tandis que plus de 120 000 dépêches avaient encore été transmises par télégraphe en 2000, leur nombre total a été 6 fois moindre l'année dernière, et encore seuls 756 de ces télégrammes ont été envoyés par des particuliers dans les 3330 bureaux de poste du pays, le reste l'ayant été par des entreprises. Des chiffres sans aucune mesure donc avec la fin du 19e siècle ou la première moitié du 20e, quand plusieurs millions de télégrammes étaient envoyés chaque année, une époque révolue comme l'explique la porte-parole de la poste tchèque Martina Selicharova.
Avec la communication électronique, ce service perd sa raison d'être. Les gens l'utilisent bien entendu beaucoup moins. Il s'agit d'un service que nous proposions encore pour la compagnie Telefonica O2. Or, Telefonica a résilié le contrat. Nous avons donc décidé d'un commun accord de supprimer les télégrammes à partir du 1er avril. Cela signifie que les gens pourront envoyer un dernier télégramme ce mercredi 31 mars.
Pour autant, si la Poste a décidé de le retirer de son offre de service, le télégramme ne disparaîtra pas encore complètement en République tchèque. Telefonica, la plus grande société de télécommunications dans le pays, détentrice de la licence pour l'exploitation du télégramme, sera la dernière à préserver ce service, notamment pour les hôpitaux qui s'en servent essentiellement pour annoncer la mort d'un patient aux parents proches. La Poste, elle, a évolué et propose depuis peu autre chose.
Les télégrammes peuvent être remplacés par le nouveau service que nous avons instauré l'année dernière et que nous avons baptisé Lettre Online. Ce service est très simple. Il suffit de remplir un formulaire sur votre ordinateur que vous envoyez ensuite à la poste. Celle-ci l'imprime, le met sous enveloppe, puis l'expédie. Ce service coûte en moyenne 80 centimes d'euros et la lettre est remise à son destinataire le lendemain de l'envoi.
Tandis que des pays comme le Danemark et l'Irlande ont abandonné le télégramme au début des années 1980, puis la France, peu après le passage au nouveau millénaire, la République tchèque, elle, a pris cette décision quelques décennies ou années plus tard. Il faut dire qu'il y a peu encore, et notamment avant la révolution de 1989, il s'agissait d'un service auquel un grand nombre de Tchèques recouraient, comme le rappelle le directeur du musée de la Poste, Jan Galuška.
Il est intéressant de remarquer que le télégramme a connu son essor le plus important dans les années 80. C'est même une curiosité car c'est une période qui correspond déjà à la fin ou presque de l'existence du télégramme. À l'époque, environ 9 millions de télégrammes avaient été envoyés dans toute la Tchécoslovaquie. C'est une quantité assez incroyable. Mais il faut se remettre dans le contexte et se souvenir dans quel état se trouvaient alors les communications dans le pays. Se souvenir comme il était difficile d'obtenir un téléphone, comme il était même souvent compliqué d'appeler quelque part. C'est ce qui explique que le télégramme était alors un service irremplaçable.
Irremplaçable, le télégramme le reste néanmoins pour le président de la République et le Premier ministre qui envoient encore régulièrement de la sorte leurs messages de condoléances ou de félicitations aux chefs d'État et de gouvernement d'autres pays, même dans ceux où le service a été abandonné. La transmission par voie officielle se fait alors par les ambassades. Et c'est déjà la fin de ces faits événements. Merci de votre attention et de bien vouloir rester encore quelques instants en notre compagnie. Tout de suite, place à l'histoire.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Dissoubelova.
Le mariage royal est le titre d'une exposition qui commémorera le 700e anniversaire du mariage de Jean de Luxembourg et Élisabeth d'Epchemislide et de l'avènement de la dynastie luxembourgeoise au trône de Bohême. L'exposition occupera les mêmes locaux qui avaient servi de résidence au couple royal, dans la maison à la cloche de pierre, sur la place de la vieille ville, à l'origine une tour gothique intégrée dans le complexe de l'ancien palais royal.
Stuva ut.
C'est le 1er septembre 1310 qu'a eu lieu le mariage de Jean de Luxembourg, dit l'aveugle, fils de l'empereur Henri VII et de Marguerite de Brabant, avec l'héritière de la couronne de Bohême, Élisabeth, sœur de Venceslas III, dernier roi des Przemyslides. Une alliance heureuse qui allait énormément influencer l'histoire de Bohême, mais aussi celle de l'Europe, comme le souligne le commissaire de l'exposition, Clara Benechowska, de l'Institut d'Histoire de l'Art.
Nous voudrions présenter avant tout le milieu dans lequel Jean l'Aveugle, Jean de Luxembourg, en tant que prince de 14 ans, est venu à Prague, et comment il devait s'adapter, qu'est-ce qu'il pouvait rencontrer ici de l'art courtois des derniers Przemyslides et comment il pouvait continuer dans ses traditions à côté de la princesse Élisabeth.
Comment il était accueilli à Prague?
Il était accueilli très bien, naturellement, parce que c'était le choix d'une grande partie de ce milieu royal qui l'a choisi. Et alors, il était vraiment très bien accueilli. C'est vrai que Prague était occupée encore par les troupes de Henri de Carinthie, mais ça s'était bien passé. Jean pouvait déjà au début décembre 1310 entrer dans la ville de Prague. Et ils sont restés avec Élisabeth au centre de la ville parce que le château royal, le château de Prague avec l'église métropolitaine de Saint-Guy n'était pas assez bien adapté pour la vie de la cour royale.
C'est-à-dire que la maison à la cloche de pierre sera le principal objet de cette exposition?
Oui, parce que vraiment l'exposition sera installée dans les salles historiques de cette maison gothique qui occupait un lieu très important dans la place principale de la ville, de la vieille ville de Prague.
Avec Jean de Luxembourg, une nouvelle dynastie a été instaurée sur le trône de Bohême. Quelle a été sa contribution à la culture, aux arts et au développement du pays, de la ville?
Pour la ville, il a fondé la confrérie des orfèvreries. Il aussi a aidé beaucoup à la naissance de l'hôtel de ville de Prague, parce que c'est lui qui a permis de vraiment constituer l'hôtel de ville ici, dans les années 1338. Naturellement, on le voyait dans la littérature historique comme le roi étranger, mais c'est vrai qu'il était avant tout un roi diplomate est capable d'inclure le royaume de Bohême dans la politique internationale, dans la politique européenne de son époque. Alors, c'est grâce à lui que nous avons, après Charles IV, en tant que un roi presque le plus important de l'Empire romain au XIVe siècle.
L'un des objets les plus précieux qui sera exposé à Prague s'appelle « Trésor de Strzeda ». De quoi s'agit-il exactement?
C'est le trésor de Śląska Strzeda, en polonais et en allemand on dit « Neumarkt ». Aujourd'hui c'est en Silésie. C'est aussi la ville natale de chancelier de Charles IV, Jean de Neumarkt, Jan ze Strzedy en tchèque. Et c'était une découverte fantastique des années 80 du 20e siècle là-bas. Pendant les travaux, on a trouvé un trésor qui compte beaucoup, beaucoup de monnaies et aussi une partie du trésor où sont à côté de la couronne ou de le diadème féminin, les bracelets, oui, les boucles d'oreilles, les anneaux et beaucoup de choses fantastiques qui probablement appartenaient à la famille royale de Bohême, qui a disparu pour les siècles été redécouverte.
Est-ce que l'exposition apportera d'autres révélations ou choses inconnues ou mystérieuses?
Oui, oui, nous espérons. Nous sommes heureux d'avoir ici, par exemple, les manuscrits astronomiques qui étaient faits peut-être déjà pour la cour de Venceslas II ou aussi pour Jean Lavaigle, mais ça c'est encore en discussion des spécialistes. Et aussi un globus de l'époque du XIIIe siècle encore, qui peut-être aussi était fait pour la cour royale de Prague. Nous aurons aussi, j'espère, quelques reliquaires faites pour Venceslas III, qui était jusqu'à maintenant inconnu, qui se trouve à Escorial. Alors nous espérons d'avoir aussi une statue de l'ange de Poissy ici pour présenter la sculpture liée à l'architecture de cette cour de Philippe le Bel et ses fils, les rois maudits. C'est l'exposition des rois maudits qui les a présentés à Paris.
Il y a aussi quelques autres réalisations communes de Jean et Elisabeth à Prague.
Oui, ils ont fait quelques fondations qui devaient continuer ou présenter la continuation des fondations des derniers Přemyslides. Alors c'était par exemple les Augustins ermites de Saint-Thomas qui étaient vraiment dotés par Elisabeth et Jean. Ils ont aussi participé à la fondation des Dominicains de Sainte-Anne. Ils ont subventionné les frères mineurs chez Saint-Jacob. C'est seulement dommage que vraiment très peu est resté conservé jusqu'à aujourd'hui.
C'est tout pour cette page d'histoire consacrée au mariage d'Elisabeth de Přemyslides avec Jean de Luxembourg, roi dont la devise était « Je sers ». Merci de votre attention et à la prochaine.
C'est la fin pour aujourd'hui du programme Langue française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet. Pour cela, c'est très simple. L'adresse, c'est le www.radio.cz. Sinon, et vous le savez mieux que nous, et c'est encore mieux, rendez-vous près de vos postes. Dès demain, même heure, même fréquence. À très bientôt donc. Ahoy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz.